Bonsoir à toutes et à tous. Banques, supermarchés, lieux de culte, le masque est désormais obligatoire dans tous les lieux publics clos, et ce sous peine d'une amende de 135 euros. Alors pourquoi une telle obligation ? Qu'en pensent les Français ? Faudrait-il même imposer le port du masque dans tous les lieux ouverts dès qu'on sort de chez soi ? Et ce, alors que le gouvernement prépare l'opinion à des reconfinements localisés comme cela se pratique en Espagne ou en Angleterre, où l'une de nos équipes s'est rendue. Quand pourra-t-on enfin retrouver une vie normale ? Et est-ce que seul un vaccin réussira à nous débarrasser de ce virus ? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Masque obligatoire, jusqu'à quand ?». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Anne-Claude Crémieux. Vous êtes professeure de maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris, membre de l'Académie de médecine, et vous avez publié « Gouverner l'imprévisible, pandémie grippale, SRAS et crise sanitaire », c'est aux éditions Lavoisier. Martin Blachier, vous êtes épidémiologiste spécialisé en santé publique et vous dirigez la société Public Health Expertise, spécialisée dans la modélisation des maladies. Bertrand Guidet, professeur, chef du service de réanimation à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Et enfin, Marie Gariazo, vous êtes directrice adjointe du département Opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP et vous avez co-signé avec Jérôme Fourquet « En immersion, enquête sur une société confinée », c'est aux éditions du Seuil. Anne-Claude Crémieux, ça y est, depuis ce matin, le masque est obligatoire partout en France, dans tous les lieux clos. Est-ce que ça veut dire qu'il est très efficace, le masque, pour se protéger de cette maladie ? Et est-ce qu'on a un moyen de mesurer cette efficacité ?
Alors oui, effectivement, c'est un moyen très efficace. C'est efficace pour se protéger. C'est aussi efficace pour protéger les autres, si soi-même on est infecté. Et c'est aussi efficace pour protéger la population, pour nous éviter des clusters qu'on aurait du mal à contrôler, qui, on le sait, sont souvent à l'origine des vagues épidémiques dans les différents pays. Donc il y a vraiment un impact important, individuel, et aussi un impact collectif. C'est d'autant plus efficace que tout le monde le porte.
Mais comment le sait-on ? Parce que vous êtes scientifique, j'imagine, il faut comparer avec un groupe placé. C'est beau, comme on dit. Est-ce qu'on a moyen de mesurer ?
Alors, vous avez raison, c'est pas si facile que ça à démontrer. Et pour le démontrer, le directeur du CDC aux États-Unis, c'est-à-dire en fait le Center for Disease Control, voilà. Prenez l'exemple d'une étude qui a été faite récemment chez des coiffeurs. Les deux étaient infectés et symptomatiques. Et finalement, chez ces coiffeurs, tout le monde portait les masques parce que c'est obligatoire. Et en fait, sur les 140 clients, aucun n'a été infecté. Et il disait, voilà, c'est une bonne démonstration que quand tout le monde porte le masque, eh bien, c'est vraiment une barrière à la diffusion du virus. Et il prenait aussi un autre exemple. Ce sont les hôpitaux, dans lesquels, vous le savez, aujourd'hui, tout le monde porte le masque, non seulement le personnel soignant, mais aussi les visiteurs et les patients. Et il montrait qu'effectivement, il y avait une baisse importante des contaminations sur le personnel soignant entre avant et après la mesure. Donc on est en train d'accumuler les données qui sont convaincantes pour montrer que c'est un moyen très efficace de freiner le virus. Je dois dire que certains pays le savaient déjà, comme les pays asiatiques, vous le savez bien, qui l'utilisent. Et là aussi, c'est une démonstration, car ce sont ces pays qui ont contrôler l'épidémie, les pays qui portaient le masque, pour lequel le port du masque était généralisé.
C'est vrai quand on voyait ces images de classe, même, c'était à Taïwan, il me semble, en Corée du Sud, avec tous ces enfants là, avec le masque, on se disait, mais ils sont fous, ces Asiatiques.
Et
en fait...
Eh ben non, ils avaient raison avant nous. Ils avaient raison avant nous.
Alors, Bertrand Guidet, si on décrète le port du masque, on va revenir largement sur le port du masque, mais si on l'a décrété ce matin, c'est parce qu'on constate cette fameuse reprise de l'épidémie. Alors, est-ce que vous, par exemple, à l'hôpital Saint-Antoine, vous avez un moyen de mesurer cette reprise de l'épidémie ? Oui,
alors, vous savez, on a des indicateurs relativement robustes, c'est-à-dire le nombre de patients qui se présentent aux urgences avec des symptômes grippaux, on va dire, puis que l'on teste et qui sont positifs ou négatifs. Ça, c'est le premier indicateur. En Île-de-France, non, il n'y en a pas, on va dire.
En Île-de-France, ça ne reprend pas ?
Non. C'est des indicateurs au vert. Le deuxième indicateur, c'est l'appel du SAMU, donc pour les cas, on va dire, plus sévères. Puis le troisième indicateur, c'est les admissions en réanimation. Donc moi, j'ai appelé mes collègues réanimateurs à Paris. Il y a quelques admissions en réanimation, là, récentes, alors qu'il n'y en avait pas au mois de juin.
Alors quand on est en réanimation, ça veut dire que la maladie, ce sont des cas graves qui ont été contaminés il y a un mois ou il y a...
Non. Alors il y a quelques malades qui restent avec des séquelles de Covid graves de la période antérieure, mais il y a quelques nouveaux cas, donc de nouveaux malades, alors qu'au mois de juin, il n'y avait pas de nouvelles admissions. Donc ça veut dire que ça reprend un tout petit peu en Île-de-France. Dans d'autres régions, type Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, etc., c'est un peu différent. Mais donc, ce qu'on peut dire en Île-de-France, c'est que sur ces indicateurs-là, c'est au vert, mais il y a quand même quelques cas de nouvelles admissions, alors qu'il n'y en avait pas au mois de juin.
Et ce n'est pas, comme le dit Donald Trump, évidemment, il y a plus de cas parce qu'on teste plus. Alors quand on cherche, on trouve. Non, ce sont vraiment, objectivement, on peut dire que le virus circule plus activement au mois de juillet qu'il ne circulait au mois de juin.
Ah bah, sur le critère d'admission en réanimation, c'est un critère dur, on va dire. Hein, donc,
Marie Gariazo, est-ce que les Français, donc depuis ce matin, portent du masque? Et sinon, attention, amende de 135 euros. Est-ce que, qu'en pensent les Français? Est-ce qu'ils sont prêts à porter le masque? Est-ce qu'ils le portent de bonne grâce?
Alors, ce qu'on voit, alors c'est vrai que nous, on n'a pas d'éléments de mesure concrets, mais nos confrères ont mené des sondages et donc il y a une adhésion massive au port du masque obligatoire dans les lieux clos. Je crois qu'on est à 8 Français sur 10. Nous, ce qu'on voit en tout cas, c'est que la peur remonte, la peur d'être touché soi-même et de voir ses proches touchés par la Covid-19. On a pris 7 points, je crois, en 2 semaines, donc c'est vraiment en train de remonter avec les clusters, ce qui se passe en Mayenne, enfin la médiatisation, évidemment aussi ce qui se passe à l'étranger. Hein. On voit le reconfinement à Barcelone, par exemple, ce genre de choses. Donc, on se dit qu'on n'est pas à l'abri. Et donc, il y a une peur quand même majoritaire d'une reprise de l'épidémie et donc une adhésion à des mesures de protection. Alors, ce qui est en effet...
Est-ce que tous les Français sous question... Parce qu'on dit que les jeunes, là, on voit beaucoup de reportages, on voit les jeunes dans les cafés, dans les bars et ne absolument pas porter le masque. Parce qu'après tout, ils disent, nous, on n'est pas une population à risque. Est-ce que l'adhésion est aussi forte chez les jeunes?
Alors c'est vrai qu'on remarque que l'inquiétude monte avec l'âge. Voilà. Et pareil, évidemment, l'adhésion aux mesures, aux gestes barrières et notamment au port du masque obligatoire. Après, ce n'est pas non plus ultra significatif. Les jeunes ne décrochent pas totalement. D'accord. Mais on sent que c'est évidemment chez eux à la fois que le relâchement est un petit peu plus fort et évidemment qu'ils sont moins enclins à porter le masque dans les lieux clos.
Est-ce qu'on serait prêt à aller plus loin et à, c'est ce que je disais dans le lancement, là, à dire que carrément, on pourrait porter le masque en tout temps. Dès qu'on sort de chez soi, dans la rue, portons le masque. Après tout, c'est, comme le disait Anne-Claude Crémieux, c'est très efficace pour contenir l'épidémie. Est-ce que ça, nous serions prêts à le faire?
Alors, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que non, ça baisse. Les chiffres, en tout cas, observés par nos confrères, baissent quand on ouvre les lieux où il faudrait être obligé de porter le masque. Mais en revanche, nous, on a mené une autre étude pour la Tribune où on se rend compte que à peu près 8 Français sur 10 seraient prêts à un reconfinement strict. Donc, carrément d'aller encore plus loin. Donc, on le voit très bien tout ça.
Ça veut dire quoi? Les Français acceptent, si on doit y passer... Si,
en tout cas, il y a une telle crainte d'une reprise de l'épidémie que c'est quelque chose qui... La peur, en fait, est vraiment un adjuvant extrêmement fort pour l'opinion publique française. Évidemment, on entend très clairement qu'il n'y aura pas de reconfinement généralisé. Et donc, il y a évidemment la crise aussi économique et sociale qui s'annonce, qui entre en jeu, mais quoi qu'il en soit, dès que la peur repart, on voit très bien quand même qu'il y a une adhésion à l'adoption de certaines obligations. Ouais. Alors sur le masque, juste que pour rappeler quand même, c'est d'autant plus curieux qu'il y a eu quand même aussi des injonctions extrêmement contradictoires
de
la part
du
gouvernement sur le
masque,
totalement obligatoire, essentiel. Ouais. Mais donc du coup, en tout cas, ça ne remet pas l'adhésion aujourd'hui des Français, pour reprendre ce que vous disiez, qui en effet ont bien compris que dans certains pays, ces mesures-là étaient quand même assez efficaces.
Martin Blachier, on accepte de porter le masque, non pas par peur de l'amende de 135 euros, mais parce qu'on ne veut pas revivre le confinement qu'on a vécu, là, les 2 mois sans pouvoir sortir de chez soi, paraît comme l'horreur absolue.
Je pense qu'il y a ça, et puis je pense qu'il y a aussi la peur de soi-même attraper le virus. On a toujours d'abord peur pour soi avant d'avoir peur pour le système, la société. Moi, je suis assez catégorique sur le confinement. Je pense vraiment qu'il faut éviter un reconfinement. Et je pense que s'il y a besoin de se reconfiner, ce sera très pénible, très dur socialement. Et en plus, je pense que sur un plan épidémiologique, ce n'est pas très intéressant, puisque le confinement, c'est intéressant sur un temps court. Vous confinez une zone, mais imaginez que vous avez une ville où il y a une reprise épidémique. Vous êtes très réactif. Vous confinez toute la ville, 3 semaines, 4 semaines. Ensuite, vous la redéconfinez. Puis ensuite, il y a une renouvelle reprise épidémique. Qu'est-ce que vous faites? Vous reconfinez les gens? Vous imaginez socialement ce que ça représente? Et ça, pendant des mois, d'avoir en permanence un yo-yo, on surveille, on réagit, on surréagit. Moi, je pense que le confinement, c'est plus d'actualité.
Contrôler le virus en amont.
Exactement. Je sais que ça veut dire quelque chose, ça, parce que c'est fait en Espagne, c'est fait en Allemagne, ça commence à être la doctrine un petit peu partout.
On va y revenir.
Mais moi, je ne pense pas que ce soit une solution. Je pense que le masque est très efficace. Et nous, dans nos modèles, on a fait énormément de scénarios.
Et pourquoi? Alors, qu'est-ce qui vous fait dire
que le masque était très efficace? Nous, on a regardé toutes les études.
Parce qu'au début, on nous disait qu'il faut se laver les mains, il faut avoir un mètre ou deux.
Vous savez,
les gestes barrières.
Il y a des intervalles de confiance, c'est-à-dire que le masque, on a pensé qu'il avait une efficacité entre 30 et 90%. Et l'efficacité que vous considérez dans les modèles sur ce masque, c'est ça qui détermine le fait qu'il y ait une reprise épidémique ou qu'il n'y ait pas de reprise épidémique. Donc moi, je pense que si le masque est appliqué de manière importante avec toutes les preuves qui viennent de s'accumuler sur le masque, on peut éviter d'avoir ce genre de situation. Et je dirais aussi au gouvernement, même s'il y a une petite reprise, moi je suis pour dire qu'il y a une reprise, en revanche, je suis pour être très 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 prudent sur les reconfinements.
Anne-Claude Crémieux ?
Oui, un mot pour dire que tout le monde est assez convaincu de l'efficacité du masque. Ouais. Il y a une étude faite par la banque Goldman Sachs qui a montré, en fait, que le masque pourrait effectivement éviter le confinement. C'est ça, je dirais, le résultat de leurs travaux. Et que ceci permettrait une économie absolument considérable en termes de PIB. Donc, si vous voulez, quand les économistes commencent à rajouter aux bénéfices sanitaires les bénéfices économiques, on peut dire qu'on a franchi la barre
de la conviction.
De la conviction, voilà. Absolument.
Un tout petit élément complémentaire donc pour aller dans le sens d'un clôture. Crémieux, l'étude des soignants, 75 000 soignants donc particulièrement exposés aux malades, très clairement en période avant-après, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que quand on a généralisé le port de masque pour les soignants, donc une population particulièrement à risque d'attraper...
Par définition, quand on est soignant, on est
exactement
exposé à la maladie en permanence.
Donc ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est un élément qui est très important. Et puis après, en termes de prévention d'une transmission d'une maladie, je pense que les gens qui sont réticents au port du masque, s'ils se faisaient opérer, ils souhaiteraient que le chirurgien porte un masque et une bavette. Donc, parce que ça a fait la preuve de son efficacité. Donc clairement, le masque est protecteur. Alors après, on peut dire, mais vous êtes incohérent, parce que le discours que vous aviez il y a 3 mois et le discours que vous avez maintenant est un peu différent. Oui, mais maintenant, on est en période de déconfinement. On n'est plus en période confinée. Donc le masque était absolument nécessaire pour les professionnels en période de confinement, mais en période de déconfinement, il est nécessaire pour tout le monde.
Tout le monde, d'accord, pour que justement le virus ne reparte pas.
Alors jusqu'à présent, les autorités misaient sur le respect des gestes barrières et le civisme pour éviter une deuxième vague, mais après avoir noté un certain relâchement et constaté une reprise de l'épidémie dans plusieurs régions, le gouvernement s'est donc résigné à rendre le port du masque obligatoire dans les lieux clos accueillant du public. Voyez ce sujet d'Antoine Magnan, Aubéry Perrault et David Lemarchand.
Dernier verre et dernier pas de danse, sans masque et presque sans règles. Il y a 2 jours à Cannes, ce bar accueille des dizaines de jeunes non masqués et pour qui l'épidémie semble déjà un lointain souvenir.
Apparemment, le Covid, ça n'existait pas.
Le Covid, on ne voit plus, là.
Là, ici, il n'y a que des jeunes autour de nous, personne n'est à risque. Moi, je sais que je vais rentrer ce soir, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai pas plus peur que ça, quoi.
Un relâchement observable sur tout le territoire. Alors, jeudi dernier, le gouvernement décide un durcissement des mesures. L'obligation de porter un masque dans les lieux publics clos, avec une application quasi immédiate.
Nous envisagions une entrée en vigueur de ces dispositions le 1er août, parce qu'encore une fois, nous agissons dans une logique préventive et pas sous l'empire de l'urgence. J'ai entendu et compris que cette échéance apparaissait tardive ou suscitait quelques interrogations. Le décret entrera donc en vigueur la semaine prochaine.
C'est donc dès ce lundi que l'obligation s'impose dans les lieux clos. Dans cette boutique de vêtements, le masque était déjà obligatoire, mais pas toujours porté. Cette vendeuse attendait avec impatience des mesures nationales.
Donc voilà, j'installe ça à l'entrée de la boutique, donc pour préciser aux clientes que le port du masque est obligatoire. Honnêtement, oui, c'est comme un soulagement. Au moins, c'est exactement la réaction que j'ai eue quand j'ai entendu la loi. Au moins, on n'aura plus à se battre contre certaines clientes qui étaient réticentes.
Mais comment imposer cette mesure dans les lieux plus importants, comme les centres commerciaux ? Dans ce supermarché, le masque n'est obligatoire que depuis quelques heures. Le directeur du magasin a donc dû s'adapter pour contrôler l'accès.
Alors depuis ce matin, on a un agent de sécurité qui filtre l'entrée du magasin pour veiller au port du masque obligatoire depuis ce matin. Si ce n'est pas le cas, on dirige le client vers l'accueil pour qu'il puisse acheter des masques et pouvoir rentrer dans le magasin.
Ces deux clientes non masquées sont rapidement redirigées vers l'accueil. Comme partout en France, elles s'exposaient à une amende de 135 euros. Mais alors, pourquoi un tel durcissement des mesures ? Depuis quelques jours, de nombreux responsables de santé s'inquiètent d'une résurgence du virus, parmi lesquels le ministre Olivier Véran.
De vie. Et c'est parce que nous constatons qu'il y a des signes inquiétants de reprise épidémique dans certains endroits du territoire national que nous sommes amenés à, entre guillemets, durcir le positionnement par rapport au message sanitaire en rendant obligatoire ce que nous recommandions jusqu'à présent. Nous constatons qu'il y a une dynamique de circulation du virus qui nous inquiète et qui doit inquiéter les Français pour qu'ils puissent réagir parce que ce sont les Français qui détiennent les clés du combat contre le virus.
Des signes inquiétants comme le taux de reproduction du virus supérieur à 1 dans de nombreuses régions françaises, et notamment en Bretagne, où théoriquement 10 malades peuvent infecter 26 personnes. Dans le Finistère, les autorités locales ont devancé le gouvernement en imposant depuis la semaine dernière le masque sur les marchés d'une trentaine de communes, même en plein air. Face à la menace épidémiologique, la population locale, comme les vacanciers, voient leurs habitudes bouleversées, eux qui se sentaient jusqu'à présent protégés.
Là, oui, ça nous inquiète parce que du coup, on commençait à se rebalader, etc. Et là, on se dit qu'il faut qu'on fasse de nouveau attention, même encore plus qu'avant.
Donc c'est bien dommage parce qu'il y a un gros relâchement. Et maintenant, actuellement, on voit ce qui se passe dans le secteur.
Ça repart en
flèche. Ça repart.
De nouvelles habitudes à prendre avec le masque. Et si cela ne suffisait pas, des scénarios de reconfinement localisés sont à l'étude. L'enjeu pour le gouvernement est d'éviter à tout prix un reconfinement généralisé.
Alors, question téléspectateur, si le virus se transmet par l'air, pourquoi ne pas obliger à porter le masque dans la rue, Anne-Claude Crémieux, pour bien faire?
Alors, le virus se transmet essentiellement par des gouttelettes, mais ce qui est vrai, c'est que dans les milieux clos, justement, fermés, ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, il pouvait y avoir des aérosols de virus, et comme c'est des milieux clos, peu aérés, ces aérosols restent en suspension. Et c'est ce qui explique les clusters avec un nombre important de personnes infectées en milieu clos, parce qu'on ne contamine pas seulement les personnes à côté de soi, on peut contaminer une quarantaine de personnes dans un lieu clos avec un rassemblement. Donc, quand on parle d'aérosol, c'est essentiellement le problème des milieux clos. Et c'est pour ça que le masque a été rendu obligatoire dans les milieux clos, parce qu'effectivement, il existe une échelle de risque. Et le rassemblement en milieu clos, c'est-à-dire un milieu clos où il y a pas mal de gens, c'est effectivement dans les plus forts risques. Donc c'est là où il faut être le plus prudent.
Alors, Martin Blachier, on l'a bien dit, le masque est efficace pour tout le monde. À partir de quel âge faut-il le porter? Est-ce que les enfants qui entrent dans un magasin doivent aussi le porter? Et un bébé ou un enfant de 2 ans ne va pas lui faire porter un masque, il ne le supporterait pas d'ailleurs.
Les pédiatres recommandaient de ne pas porter le masque avant l'âge de 6 ans, parce que ça gênait la respiration. Ils jugeaient qu'il y avait plus de risques à porter un masque en dessous de 6 ans que de bénéfices à en porter un. En plus, on rappelle quand même que les enfants portent assez peu le virus, le transmettent assez peu. C'est des études qui ont été faites notamment en France. Donc je pense qu'avant 6 ans, c'est pas une bonne idée de faire porter un masque aux enfants, sans compter l'aspect traumatique et en plus la faible efficacité épidémiologique. Après, entre 6 ans et 15 ans, la question se pose. Les enfants peuvent sans doute porter un masque. Et on sait qu'à 15 ans, il y a un peu une barrière. Au-delà de 15 ans, les adolescents transmettent à peu près autant que les adultes. Et en dessous de 15 ans, ils transmettent quand même moins. Donc j'ai envie de dire, après 15 ans, il faut que ce soit traité comme des adultes. Entre 6 et 15 ans, il y a une balance. Il faut voir à peu près l'âge où on peut accepter qu'un jeune porte un masque.
Alors, Marie Gariazo, il y a aussi le problème de, pour une famille, c'est le Parisien ce matin, qui faisait le calcul là, d'une famille, ça revient assez cher, une famille de 4 enfants, ils avaient 228 euros par mois de budget masque.
Tout à fait.
Est-ce que maintenant qu'il est obligatoire, il n'y a pas la question de la gratuité qui pourrait se poser?
Alors, tout à fait, enfin, c'est en tout cas une inégalité supplémentaire que la crise du Covid révèle, hein. C'est qu'en effet, il y a un coût qui est quand même non négligeable et qui représente, si on le respecte de façon stricto sensu, une dépense dépenses non négligeables pour les familles. Donc c'est sûr qu'il devrait y avoir un accompagnement, enfin en tout cas c'est ce qu'on pense, un accompagnement pour les familles sans ressources pour accéder plus facilement au masque.
Alors Bertrand Guidé, l'une des astuces que disait le Parisien, c'est de se fabriquer soi-même un masque. On en vient à l'efficacité de ces masques. Est-ce qu'un petit bout de tissu là, que je couds avec ma machine à coudre chez moi, est-ce que c'est aussi... Il y a aussi les masques chirurgicaux, alors les FFP2, non, ça, non, en les... forme de cône. Attends. Et puis il y a les masques qu'on a tous, que j'ai là d'ailleurs, qui est le masque, le fameux masque à 95 centimes.
Dit chirurgical.
Est-ce qu'ils sont tous pareils? Est-ce qu'il y a une échelle?
Non, non. Donc le masque FFP2, en gros, c'est le masque pour les professionnels.
C'est-à-dire... Avec le cône, là.
Ah, voilà, c'est ça. Alors c'est vrai qu'en termes de tolérance, il est pas mal ce masque parce qu'il y a un petit espace, c'est peut-être plus facile pour respirer. Mais ce masque-là, c'est le masque, on va dire, haute protection. Donc c'est un masque que nous, on utilise en réanimation si on doit faire une procédure chez un malade infecté par le SARS-CoV-2. Donc ça, voilà. Après, il y a les masques chirurgicaux, celui que vous nous avez montré.
D'accord.
Puis après, il y a les masques faits maison.
Ouais.
Donc les masques faits maison, faut voir, il y a un certain nombre de didacticiels pour effectivement fabriquer son propre masque. C'est mieux que rien, je dirais, mais il faut quand même pas faire n'importe quoi. Donc il y a quand même
dans ce cas-là, on prend une écharpe et puis on se le met autour.
Voilà.
De...
Donc il y a quand même un minimum d'éléments pour constituer son masque avec ses moyens propres.
Voilà. Alors est-ce qu'il faut véritablement, et je suis sûr que tout le monde ne le fait pas, à commencer par moi, au bout de 4 heures dire, écoutez, ce masque, il faut le remplacer. Anne-Claude Crémieux, on a du mal à se dire, ben voilà, je rentre chez moi, le masque, je le mets à la poubelle et demain, j'en prendrai un neuf. La tentation est de le garder, de remettre le même le lendemain.
Alors, c'est vrai que ce changement de masque toutes les 3 ou 4 heures est en fait une recommandation qui venait du système de soins. Pourquoi ? Parce qu'au bout de 3 ou 4 heures, on considère qu'effectivement, avec la respiration, le masque peut s'humidifier et perdre ses qualités filtrantes. Mais évidemment, c'est pas vraiment la même chose lorsque on considère que quelqu'un va porter le masque un quart d'heure en allant à la boulangerie. Donc, je pense que le masque, on peut considérer qu'il a une viabilité de quelques heures, mais ce qu'il faut, c'est vraiment le manipuler avec précaution. Bien sûr qu'il faut avoir les mains propres quand on le manipule, quand on le met et quand on l'enlève. Et effectivement, quand on l'enlève, il faut le mettre quand même sur un milieu propre si on veut le réutiliser. Effectivement, il faut bien le mettre aussi, mais ça, on a insisté largement sur le fait qu'un masque doit couvrir le nez et la bouche et qu'il doit se pincer autour du nez, parce que quand même, l'objectif, c'est qu'il soit non pas clos, ouais, mais hermétique.
Alors,
même.
Justement, et se pincer aussi, parce que c'est très agréable quand on a des lunettes. On a de la buée et du coup, on ne s'en sort plus, là.
Il faut inverser le masque, ça retire les attaches derrière les oreilles, vous les tournez. Et puis sinon, et nous on a fait ça en imprimante 3D, vous mettez un petit système en plastique derrière, vous accrochez votre masque au système en plastique, et il n'y a plus de buée.
D'accord. Alors vous le disiez, il faut le manipuler avec précaution, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le toucher, parce que souvent on a l'habitude de l'enlever, de le remettre, etc.
Absolument.
Et là, pourquoi ? Or, s'il y a un bout de virus sur le masque, bah forcément, il va se retrouver sur la main.
L'idée, c'est quand même pas de faire de la contamination entre la main et le masque. Donc c'est pour ça qu'on se lave les mains, on met son masque, on le laisse pendant le temps, on en a besoin. Et si vraiment on l'a très peu utilisé, c'est clair qu'on le remet chez soi après s'être lavé les mains, sur un endroit propre. En pratique, c'est ce que tout le monde fait. Mais effectivement, il faut que ça soit accompagné avec une hygiène des mains stricte, parce qu'effectivement, le masque peut, c'est ça son objet, être porteur de virus, et auquel cas, effectivement, c'est pas la peine de s'en mettre sur les mains. Moyenne en quoi, finalement, globalement, on arrive à utiliser un masque par jour et pas plus, parce que très c'est peu ça. Sont les gens qui passent 7 heures dans des lieux publics. Et si c'est le cas, en général, c'est des lieux professionnels. Et il est vrai qu'il y a eu beaucoup d'initiatives dans les milieux professionnels où, effectivement, les masques étaient distribués. Je pense, par rapport à ce que vous disiez sur le coût, il y a eu énormément d'initiatives de ce type qui permettent de passer, je dirais, peut-être cet obstacle éventuel financier.
Marie Gariazo, est-ce qu'on sait si les errements sur la communication autour du masque, qui était inutile il y a quelques mois et qui maintenant est devenu obligatoire, est-ce que aussi On sait que les hommes, par exemple, portent moins le masque que les femmes, et il remonte de certaines enquêtes d'opinion que le masque pouvant être vu comme une atteinte à la virilité de l'homme, etc. Et ben, Donald Trump n'aimait pas être vu avec le masque. Et, mais c'est vrai qu'au début, on a dit que le masque, c'était pour les gens malades. Donc, c'est quand même associé à quelque chose de, d'une personne fragile au début.
Alors, c'est sûr que... Alors, bon, je pense pas que Donald Trump soit très représentatif. Mais non, ce qui est sûr, c'est qu'il y a toute une histoire autour des masques dans la gestion de cette crise sanitaire qui a très fortement impacté l'opinion, hein, parce qu'on a quand même eu, à un moment donné, l'impression qu'on nous donnait des injonctions qui étaient en lien avec le stock de masques qu'on avait à disposition. Donc, on nous disait que c'était inutile parce qu'en fait, on n'était pas capable de fournir et à la fois les soignants et évidemment les citoyens. Et donc, du coup, voilà, cette pénurie de masques, elle restera, de notre point de vue, un marqueur assez fort, hein, de la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, alors même si en effet, par rapport à ce que j'entends là, on se rend bien compte qu'on fait pas toujours qu'on n'a pas toujours les bons gestes, qu'on ne le porte pas forcément toujours de façon optimale, on a quand même l'impression que là, on est passé dans une seconde phase. Il y a une telle peur de la seconde vague épidémique, une telle peur d'être reconfiné et avec toutes les conséquences, hein, économiques, notamment que cela va présenter, que je pense qu'il y a une certaine discipline qui peut plus facilement s'opérer aujourd'hui.
Certaines disciplines, en tous les cas, Martin Blachier, donc il y a aussi l'amende de 135 euros. Est-ce qu'elle n'est pas compliquée, cette amende? Chacun a une bonne excuse. Écoutez, dans le reportage, on a vu Olivier Véran, c'était un endroit public clos, il n'avait pas de masque ce matin. Et nous-mêmes, mea culpa, nous sommes cinq ici, nous n'avons pas de masque. Est-ce que nous mériterions une amende de 135 euros? Chacun a une bonne excuse.
Mais là, on n'est pas dans un lieu public. Hein. Donc voilà, pour l'instant, c'est les lieux publics qui sont visés. Et je pense que ce sera appliqué essentiellement dans les lieux publics. Et là, je pense que ce sera très appliqué. Et je pense qu'il faut, il faut le dire, le fait que ça vienne d'en haut et qu'il y ait une amende, c'est aussi ça qui fait que ce sera appliqué dans les magasins, dans les administrations, dans tous les lieux qui sont visés. Je pense que c'est difficile en France d'avoir un discours en disant on recommande. Je pense que si c'est recommandé, les gens disent c'est pas essentiel. Si jamais c'est obligatoire, ça veut dire que c'est essentiel. À ce moment-là, on suit et c'est comme ça qu'on fonctionne en France. Il faut l'accepter, peut-être le regretter, mais en tout cas c'est comme ça qu'on veut que ce soit. Si jamais on veut que ce soit efficace. Ensuite,
pour aller dans votre sens, ce matin il y avait un reportage sur un lieu de vacances, un Suisse qui disait « je le mets en Suisse parce que c'est obligé, et en France, comme ça n'est pas obligé, je ne le mets pas ». Mais il a dit « je le mettrai maintenant voilà. ».
Et alors d'ailleurs, sur ce montant de l'amende, c'est 135 euros en France.
250 euros en Belgique.
Voilà, et en Australie, c'est allé à plusieurs milliers, équivalent de milliers d'euros. Donc ça veut dire que cette incitation, elle s'est faite à peu près partout dans le monde. Après, la question, ça va être au travail. Puisqu'il y a des gens qui disent qu'il y a à peu près la moitié des contaminations qui se feraient au travail. Et là, au travail, c'est très compliqué parce qu'effectivement, porter un masque pendant 7-8 heures quand on est assis à son bureau, je pense que c'est vraiment au-delà de ce qu'on demande aux gens dans les lieux publics.
Anne-Claude Crémieux, alors je sais que vous n'aimez pas cette expression, mais il faut nous y contraindre parce que le port du masque n'est pas dans notre culture.
Non mais justement, je crois que c'est aussi une
c'est
des...
C'est vrai quand même, c'était réservé aux Asiatiques, aux touristes asiatiques.
C'est aussi une des leçons de cette crise, c'est que cette espèce d'idée qu'il y a des cultures qui supporteraient le confinement, des cultures qui supporteraient le masque et d'autres pas, c'est en train de tomber. En réalité, les gens s'adaptent. Et on l'a vu, quand on leur a demandé de se confiner, alors qu'on nous a expliqué pendant 15 jours ou 3 semaines que le confinement, c'était pour des pays qui n'étaient pas démocratiques, etc., etc. En fait, les gens ont accepté le confinement, et vous l'avez très bien dit, face aux risques perçus, ils ont adapté leur comportement. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Face à l'idée du rebond et à la compréhension que c'est une des méthodes pour éviter de nouveau des mesures beaucoup plus restrictives en termes de liberté, les gens adaptent leur comportement. Et on l'a vu dans d'autres domaines de la santé publique où on disait ça ne marchera jamais. Rappelez-vous, l'interdiction de fumer dans les lieux publics. On nous disait, mais c'est pas la culture des Français, jamais ils accepteront de ne pas fumer dans les lieux publics. Et bien maintenant, ça ne vient à personne de fumer dans un restaurant. Il y a une vraie adaptation au risque et à la pédagogie claire, et effectivement l'obligation montre que l'État considère, que les autorités sanitaires considèrent que c'est une mesure efficace. Elle traduit cette efficacité en termes de parole publique, et ça c'est important.
Bertrand Guidé, ça veut dire qu'on va toujours porter le masque dans les trains? Port du masque jusqu'à quand? C'est jusqu'au vaccin?
Alors, il y a plusieurs choses. Premièrement, il faut faire œuvre de pédagogie. Quel est le bénéfice? Il est certain. Quel est le risque?
C'est embêtant. Eh ben, vous savez qu'il y a plus de vols à l'arraché parce qu'on ne reconnaît pas les
voilà.
gens.
Donc, mais voilà, il faut mettre les choses en balance. Et je suis absolument d'accord sur le fait qu'il faut tout faire pour éviter un reconfinement, même partiel, d'accord. pour de multiples raisons. Donc, voilà. Donc, je pense que l'argumentaire sur le bénéfice-risque, il est très largement en faveur de la généralisation du port de masque. Après, c'est dans quel lieu? Quand on regarde effectivement les Asiatiques, ils portent le masque tout le temps. Vous prenez regardez des films à Hong Kong, à Taïwan, etc., ils portent le masque dans la rue. Parce qu'en France, vous êtes dans le métro, il faut mettre un masque. Vous êtes dans la rue, il n'y a plus besoin de masque. Vous rentrez dans une boutique, il faut remettre le masque. Vous sortez de la boutique, vous reprenez le métro, vous remettez votre masque. Là, vous faites évidemment des erreurs. Donc moi, je serais même plutôt pour un plaidoyer, alors après, il faut voir la faisabilité, pour le port de masque vraiment généralisé. Après, ce sera... parce qu'effectivement, en dehors du monde du travail, vous n'êtes pas en dehors de chez vous pendant 7 heures. Vous allez faire vos courses, vous revenez, c'est 2 heures, c'est... Voilà. Donc...
C'est quand même un autre monde qui se dessine, on ne voit plus les jolis visages des gens.
Moi, je vois deux obstacles à ça. La première, c'est que je pense qu'il faut toujours que les mesures soient pillées par une efficacité scientifique. Or, quand vous promenez tout seul au bord du canal Saint-Martin ou au bord du canal de Lourdes... sur un chemin de campagne...
Pour qu'on l'accepte, voilà. Il faut que...
La nuit... Non, mais vous n'avez pas besoin de porter un masque, je veux dire, vous risquez de contaminer personne. Et donc, donner des injonctions à des gens alors qu'il n'y a pas de rationnel scientifique... Et puis l'autre chose, c'est ce que vous dites, jusqu'à quand? C'est-à-dire jusqu'à quand? Ça va être quand même assez long. Donc les gens perçoivent le risque tout de suite, mais pendant combien de temps ils vont percevoir ce risque et pendant combien de temps cette perception du risque va les obliger à porter un masque? D'accord. Pour le confinement, moi je suis, honnêtement, je pense que s'ils devaient reconfiner, peut-être que les gens dans les enquêtes disent qu'ils y sont d'accord, mais moi je crois que ce serait très difficile, vraiment très difficile, et même localement.
Eh bien justement, vous parlez du reconfinement, avec 45 000 morts, le Royaume-Uni est le pays d'Europe le plus touché par le coronavirus. La situation sanitaire reste encore fragile, notamment dans la ville de Leicester, au centre de l'Angleterre, en partie reconfinée depuis 3 semaines. Alors pour comprendre les raisons de cette reprise du coronavirus, des bénévoles incitent la population à se faire tester. Regardez ce reportage en Angleterre, sur place, de Barbara Steck et Stéphane Lopez.
Leicester, au cœur de l'Angleterre, ouvrière. Cette ville est la dernière du pays encore confinée. Des stores fermés, des rues quasi désertes. Depuis fin mars, la population est priée de rester chez elle. Ce fleuriste a pu ouvrir quelques jours au mois de juin avant de devoir refermer. Mais Tara Patel n'a jamais arrêté de travailler pour les familles endeuillées. Les commandes, malheureusement nombreuses, se font par téléphone.
Hi Mike, you okay?
Bonjour Mike, ça va? Je prépare les fleurs et je vais les livrer directement au directeur des pompes funèbres. C'est tout ce dont tu as besoin? Ça, c'est pour une famille asiatique. Le père est mort. Et ça, c'est la couronne des neveux pour leur oncle. Normalement, cette période est celle des mariages. Mais avec le Covid et le nombre de morts dans la ville, on ne fait que des funérailles.
Leicester, une ville meurtrie, une population durement touchée, aujourd'hui gagnée par l'exaspération.
Je ne comprends juste pas pourquoi il y a autant de cas ici à Leicester. Les gens ne sortent pas sans raison. Comme vous pouvez le voir, les rues sont calmes. Alors je ne m'explique pas ce niveau de contamination.
Fin juin, Leicester concentrait 10% des cas testés positifs sur tout le territoire et un taux d'infection 3 fois supérieur au reste du pays. Alors pour comprendre pourquoi, la municipalité a lancé une campagne de tests gratuits. Depuis plus de 2 semaines, des volontaires sillonnent la ville, à commencer par les quartiers les plus touchés.
Bonjour, nous travaillons pour la mairie de Leicester. Nous vous proposons d'être testés pour le Covid-19. Vous en voulez un? Vous êtes combien dans votre maison? Juste vous? Ok, très bien. Quand vous avez fini le test, assurez-vous de bien fermer le sachet. Nous passerons le récupérer dans environ 1 heure. Dans cette valise, il y a les kits de test. Et là, c'est ceux que l'on récupère pour bien les séparer. Donc, il y a cet écouvillon. Il faut le mettre au fond de la gorge, entre les amygdales.
et puis au fond du nez. C'est assez désagréable. Et après, il faut le mettre dans le tube.
Les résultats sont communiqués sous 24 à 48 heures. Jack, libraire au chômage technique, a rejoint l'équipe la semaine dernière.
Quelque chose doit être fait. Je veux aider. J'ai un ami qui a été terrassé par le Covid. C'est une horrible, méchante maladie, très pénible. Et je voulais faire quelque chose pour aider à ma manière. Je ne suis ni médecin, ni infirmier, ni scientifique, donc c'est la meilleure chose que je puisse faire pour aider.
Dans cette bataille contre le Covid-19, dépister reste la meilleure arme. Dans la ville, l'armée est même venue en renfort. À Leicester, cette crise sanitaire met aujourd'hui en lumière une misère sociale et les conditions de travail des ouvriers du textile. Les syndicats s'interrogent. Ces ateliers ne seraient-ils pas à l'origine de la flambée des cas ?
Il y a plusieurs ateliers où les gens travaillent dans des conditions déplorables. Ils sont sous-payés. Il n'y a pas toujours d'endroit où déjeuner, de toilettes. Si vous pouviez voir les conditions dans lesquelles travaillent ces gens. Il y a eu des cas de Covid, mais on a dit à ces personnes qu'elles l'avaient attrapé à l'extérieur. Le gouvernement conservateur doit absolument faire quelque chose, augmenter le budget de l'inspection du travail et de l'hygiène. Ces dernières années, ce budget n'a fait que baisser. Et tant que ça ne changera pas, ces ouvriers continueront à être exploités.
Pauvreté, esclavage moderne, la ville continue de chercher et d'essayer de comprendre les nombreux cas de Covid-19. Le gouvernement britannique doit se prononcer sur un éventuel déconfinement de la ville d'ici à la fin du mois.
Alors, question téléspectateur, l'hypothèse de confiner des villes séparément est-elle à l'étude en France, Anne-Claude Crémieux ?
Oui, d'après ce que le gouvernement nous dit, effectivement, comme il faut tout faire pour éviter un confinement généralisé, qui est quand même une catastrophe sur le plan économique, tout le monde l'a dit, la première chose, c'est d'essayer de prévenir la diffusion du virus. Si jamais, dans une petite région, effectivement, il y a des clusters qui échappent complètement au contrôle, se pose ou se posera la question de savoir s'il ne faut pas avoir un confinement très localisé, qui est évidemment moins difficile, je dirais, comme impact économique qu'un confinement généralisé. Et c'est vrai que c'est l'attitude qu'ont pris beaucoup de pays de dire, eh bien, on va circonscrire, c'est ce qu'on appelle cordon sanitaire. L'Allemagne l'a fait autour d'un très gros cluster d'abattoirs, et d'ailleurs avec succès. La Chine l'a fait à Pékin pour éviter justement que l'épidémie n'échappe complètement au contrôle avec cette fois-ci une situation qui deviendra ingérable.
Même si, Martin Blachier, on a vu que suite à la décision du gouvernement catalan de confiner la ville de Barcelone, il y a eu des bouchons, 350 000 Barcelonais qui ont essayé de fuir, de quitter la ville. Et c'est même normal. À titre personnel, j'ai intérêt à quitter une zone considérée comme un foyer hautement contaminateur.
Moi, je pense que c'est très intéressant, la situation de Barcelone, parce que c'est là qu'on voit comment ça peut dérailler. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui commencent à pas respecter. Il y a la justice qui s'est emmêlée, qui a cassé le confinement. Puis ensuite, ils ont essayé de repasser en confinement. Donc, on voit comment ça peut commencer à dérailler quand il n'y a pas une adhésion complète. Je pense que c'est une solution qui est vraiment difficile. Et en plus, elle sera peut-être facile sur le premier cluster, sur le deuxième. J'imagine même pas s'il y a deux confinements successifs au même endroit. Donc, à mon avis, c'est quelque chose de très dangereux sociétalement. Et j'espère vraiment qu'on pourra l'éviter. Après, il faut dire aussi que ce sont des confinements de contrôle de cluster. Ça n'a rien à voir avec le premier confinement où on essaye de vider les services hospitaliers. Là, c'est des confinements sans qu'il y ait un malade dans les services. Donc, en fait, c'est un stade beaucoup, beaucoup plus précoce. Et c'est des confinements. En Allemagne, ça a duré 15 jours. Donc, ça n'a rien à voir avec les confinements qu'on a connus.
Bertrand Guidet, on sait qu'il y a assez peu de Français qui se font tester. Est-ce que l'une des raisons, c'est qu'après tout, si je me fais tester, je prends le risque qu'on me dise, eh bien, écoutez monsieur, vous êtes porteur du virus, vous allez rester confiné chez vous 14 jours, vous n'irez pas en vacances et vous risquez de perdre votre boulot.
Il y a toute une discussion sur l'intérêt des tests, c'est-à-dire ce qu'on appelle de la probabilité pré-test, c'est-à-dire que si vous arrivez sans aucun symptôme, vous n'avez été au contact de personne, vous allez avoir un test, bon, il est négatif, ça veut dire qu'une semaine après il peut être positif, je pense que ce n'est pas très intéressant. En revanche, vraiment, il faut travailler sur toutes les personnes, contact des personnes infectées. Donc, c'est une façon indirecte de répondre à votre question,
soirée,
mais c'est très important.
Il y a eu une personne contaminée, il faut tester toutes les autres personnes.
Alors, on sait ça, vous savez, il y a les jeunes Américains qui ont fait des Covid parties, là, hein, où ils sont mis ensemble pour voir le premier qui sera infecté, qui va toucher le jackpot. Et il y en a un qui est mort. Hein. Donc, là, oui, je veux dire que quand vous avez été clairement au contact d'une personne infectée, il faut absolument être détecté. Après, si vous êtes complètement asymptomatique, aller généraliser le test comme ça, sur quels critères, alors qu'au départ, la probabilité d'être infecté est extrêmement faible, moi, je ne vois pas tellement l'intérêt. Donc ça, c'est un débat peut-être que l'on peut avoir. Mais une politique de test généralisé comme ça, je ne vois pas tellement l'intérêt. Par contre, une politique ciblée, alors vraiment sur le contrôle des clusters, ça absolument. Et donc ça renvoie à l'enquête pour être sûr qu'on a bien repéré tous les sujets contacts et les tester.
Anne-Claude Crémieux, ce matin, Jean-François Delfraissy, donc le président du Conseil scientifique, a dit « on n'est pas bon sur les tests ». Qu'est-ce qu'il entendait par là et en quoi ne sommes-nous pas bons sur les tests en France ?
Alors, c'est vrai, il faut tester toutes les personnes symptomatiques, y compris avec de très faibles symptômes, et il faut tester toutes les personnes qui ont été en contact avec quelqu'un qui est identifié comme porteur du virus. Et puis, il y a aussi des lieux dans lequel il faut faire des tests très fréquents. C'est par exemple l'hôpital, c'est les EHPAD, dans lesquels on ne peut pas se permettre d'avoir une personne infectée parce qu'elle contamine, on le sait, la moitié du service ou la moitié des EHPAD. Bon, mais en dehors de ces... Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une accessibilité très facile aux tests ? C'est parce que cette politique qui consiste à identifier les personnes infectées et à les isoler ne sert à quelque chose que si effectivement on va vite, c'est-à-dire qu'on peut identifier et isoler la personne avant qu'elle ait le temps de la transmettre à un grand nombre de personnes. Vite, ça veut dire très vite. On pense qu'il faut identifier au moins 50% des personnes infectées, qu'il faut identifier les personnes 24 heures après l'apparition des symptômes et qu'il faut identifier tous ses contacts proches dans les 3 jours. Il faut aller très vite. Aujourd'hui, le système ne suit pas vraiment. Comme l'a dit Jean-François Delfraissy, comme on l'a dit sur ce plateau, le problème, vous téléphonez à un laboratoire, en tout cas en région parisienne, hein, je ne veux pas généraliser, mais en tout cas en région...
Jean-François Delfraissy l'a fait de façon anonyme, il a dit, ça m'a pris 5 jours pour décrocher un rendez-vous.
En tout cas en région parisienne, on vous dit un rendez-vous dans 5 jours, et nous avons ce problème-là...
Et ensuite, on a la réponse combien de temps après ?
3 jours après. Et donc ça n'est pas du tout...
Pendant 8 jours, on contamine. Voilà.
Ce n'est pas du tout adapté à la politique qui consiste... Au contraire, à aller vite pour briser les chaînes de contamination.
Alors, en plus, il y a une multitude de tests. Alors, il y a le test salivaire qui n'existe pas encore, mais on nous le promet pour bientôt. Il y a le test virologique, sérologique. Alors, sérologique, c'est avec la goutte de sang.
Oui.
C'est lequel marche le mieux ?
La sérologie, c'est la recherche d'anticorps. Donc, ça veut dire que vous avez été exposé au virus. Alors, il y a deux grandes techniques. Des techniques rapides et puis des techniques classiques de laboratoire. Ce dont on parle, là, c'est la recherche directe de l'ARN du virus, c'est-à-dire identifier le virus par des techniques dites de PCR. D'accord. Alors après, il y a des PCR rapides et puis des PCR plus classiques. C'est sûr que si on avait un test rapide, en particulier pour orienter les malades à partir des urgences, ce serait absolument indispensable. Parce que ça réglerait la question de la distribution des malades dans l'hôpital.
Marie Gariazo, on a vu, il faut très vite, dès lors qu'il y a un malade, il faut très vite remonter la chaîne de contamination, voir qui ce malade a pu fréquenter pour identifier ceux qui pourraient être contaminés. Et le gouvernement a lancé sa fameuse application Stop, voilà, vous souriez déjà, Stop Covid. On sait que très peu de gens l'ont téléchargé.
Oui, c'est ça. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est vrai que ça n'a pas complètement fonctionné.
3%, voilà. Comment vous l'expliquez ? Est-ce que, quelque part, il y a une méfiance vis-à-vis quand même de « on me piste » C'est Bernard-Henri Lévy qui disait à un moment quand même « cette épidémie, ce virus nous rend fous et on est en train de sacrifier nos libertés individuelles sur l'autel des scientifiques qui sont représentés.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on l'a vu, hein, la question des libertés individuelles pendant tout le confinement, elle s'est finalement assez peu posée puisqu'il y a eu cette peur massive, mais qui a aussi été alimentée par la communication gouvernementale, le décompte journalier des morts, les métaphores guerrières, bon, qui a eu son efficacité hein, puisque les gens sont restés confinés, mais la peur a vraiment très fortement fonctionné. Et du coup, on s'est assez peu finalement posé la question des libertés individuelles. Mais Stop Covid, l'application, c'est tous les ingrédients justement de cette question qui se réinvite dans le débat. Parce que c'est-à-dire qu'on rentre des données, on va être pisté, c'est quelque chose qui quand même... c'est comme si c'était le point de rupture où on a l'impression finalement que les libertés individuelles vont être moins respectées. Et puis évidemment, le fait est que comme ça ne fonctionne pas très bien, on doute également aussi de l'efficacité de l'application en tant que telle. Donc, c'est ça qui limite certainement l'impact de ce genre d'outils.
Il n'empêche, nous prenons de nouvelles habitudes, nous portons le masque de bonne grâce dans les lieux publics, nous ne faisons plus la bise. Martin Blachier, est-ce que ces nouvelles habitudes peuvent nous protéger contre d'autres maladies? Je pense notamment au virus de la grippe, tout bête, qui fait combien et puis 8000 morts par an.
C'est très difficile.
Des milliers de morts par an en France.
Il y a beaucoup de chiffres qui sont dits. 10, 15 000, de 10, c'est beaucoup moins en fait. Bon, parce que c'est des surinfections. Bon, beaucoup de morts, autour de 10 en général, c'est le chiffre qui est donné. Oui, c'est sûr, hein, le port du masque peut éviter des épidémies de grippe et peut limiter l'impact des épidémies saisonnières.
Il y aura moins de grippe la saison prochaine.
Bah, oui, si les gens portent le masque, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une épidémie de grippe qui soit moins importante. Tout à fait. Et puis ensuite, vous avez une compétition entre les virus qui fait que potentiellement, les gens qui décèdent d'une infection virale grave ne décèdent pas de l'autre. Il y a peut-être ce phénomène qui peut être mis en jeu. Il paraît qu'il y a eu un impact qui a été vu sur l'épidémie de gastro-entérite. Les gens se sont plus lavé les mains et du coup, on a eu moins de gastro-entérite. Donc c'est sûr que ça va impacter sur les habitudes des gens et que ça peut avoir un impact sur les autres épidémies.
Alors justement, Bertrand Guidé, est-ce que ça vaut le coup de se faire vacciner contre le virus de la grippe? Quand est-ce que va commencer la campagne? Là, C'est à l'automne. Avec ces nouvelles habitudes, on disait à l'instant qu'il va moins circuler, le virus de la grippe.
Oui. Donc, on veut dire que pendant l'été, il n'y a pas de virus, ou très peu de virus respiratoires. Il y en a un tout petit peu, mais il y en a peu. L'hiver, il y a la grippe, hein, mais il y a d'autres virus, hein, rhinovirus, virus respiratoire syncytial, etc. Nous, en réanimation, on cherche les virus et on en trouve plein. Donc, effectivement, tout ce qui peut contribuer à réduire le nombre d'infections virales hors Covid est bon à prendre, y compris la vaccination. C'est-à-dire qu'on va avoir à gérer cet hiver un afflux de malades possiblement Covid, mais également d'autres malades de réanimation avec beaucoup de maladies chroniques qui se décompensent pendant l'hiver.
On n'a pas très bien compris, d'ailleurs, si ce coronavirus, il était saisonnier ou pas. Il l'est, hein, d'une certaine façon. Hein.
Alors c'est compliqué. Il y a un travail qui a regardé sur la première vague, la distribution des malades, c'était plutôt entre 30e et le 50e degré de latitude nord. Et puis, il y en a quand même dans les pays chauds, il y en a quand même
dans les qu'ils reviennent frapper en automne
Il y a quand même peut-être, mais ce n'est pas si simple que ça. Je ne sais pas ce qu'en pense Anne-Claire ou ce que vous en pensez, mais il y a peut-être quand même une saisonnalité du virus.
Anne-Claude Crémieux sur la saisonnalité du virus.
Clairement pas suffisamment pour le faire qu'il ne circule plus aujourd'hui. Tous les gens qui nous avaient dit « mais vous serez tranquille pendant l'été », cette prédiction s'est avérée fausse. Donc, le virus continue à circuler pendant l'été. Je voulais dire, par rapport à la grippe, sur les conseils, oui, je pense que c'est particulièrement important de se faire vacciner cet automne contre la grippe, parce qu'effectivement, ça va diminuer, on l'espère, les syndromes grippaux, et donc l'afflux de patients aux urgences, parce que les gens ne vont pas savoir est-ce qu'ils ont la grippe, est-ce qu'ils ont le coronavirus. Donc ça, c'est très important. Et un deuxième aspect, ça sera, on espère, effectivement, en automne, disposer de tests rapides aux urgences qui nous permettront d'identifier, je dirais quasi immédiatement, en une heure, devant un patient qui présente un syndrome grippal, est-ce qu'il s'agit d'un coronavirus ou est-ce qu'il s'agit d'une autre infection respiratoire. Ça va être fondamental, parce que sinon, les urgences vont être terriblement engorgées, non seulement par les patients qui ont la grippe et les coronavirus, mais parce qu'on ne laissera repartir personne avant d'être sûr.
qu'ils ont le coronavirus.
Pour l'instant, le test le plus rapide, c'est combien de temps?
Clairement, je dirais, il y a de l'espoir, parce qu'on a déjà des tests en petite quantité, c'est ça le problème. On a déjà des tests qui permettent d'avoir un résultat en une heure. Simplement, ils sont aujourd'hui en petite quantité, donc nous les utilisons, par exemple, à l'hôpital Saint-Louis. Je dirais, quand nous avons vraiment affaire à une urgence d'un patient qui est, par exemple, hospitalisé, qui doit se faire opérer, et avant de le monter dans les étages ou en salle d'op, on lui fait un test, parce que la politique de l'hôpital et de la plupart des hôpitaux, c'est de dire, attention, ne faisons pas rentrer le virus avec les patients. Donc, on s'en sert, mais de façon, je dirais, au compte-gouttes, mais évidemment, il y a une recherche incroyable sur ces tests, et à l'automne, on devrait disposer de tests rapides pour pouvoir identifier chez les patients très rapidement le virus.
Alors, combien de temps allons-nous devoir porter le masque? Faudra-t-il attendre l'arrivée d'un vaccin? Certains laboratoires continuent d'affirmer qu'il pourrait être disponible en fin d'année. Cette course au vaccin peut-elle vraiment aboutir en un temps aussi court? Et est-ce que tout le monde pourrait en bénéficier? Sujet d'Emilien David et Victoria Rouxel.
C'est la compétition industrielle la plus disputée du moment. 140 équipes de chercheurs à travers le monde sont engagées dans la course au vaccin contre la Covid-19. Une bataille entre laboratoires qui se joue aussi à coups d'annonces, notamment entre les deux entreprises favorites, la société britannique AstraZeneca.
Le vaccin sera disponible au mois d'octobre et on pourra commencer à vacciner les gens à travers l'Europe au mois d'octobre, novembre.
Et la firme américaine Moderna.
Si tout se passe bien, pourrait potentiellement être approuvé d'ici la fin de l'année.
Deux entreprises qui sont en phase finale de leur essai clinique. Après avoir testé leur vaccin en laboratoire, sur des animaux, puis sur un nombre restreint de patients humains, l'étude se fait maintenant à plus grande échelle, sur 30 000 volontaires. Le chinois Sinovac Biotech complète le trio de tête. Son vaccin est actuellement testé à Sao Paulo, là où l'épidémie continue de se propager. Des essais menés avec un centre de recherche public brésilien et applaudis par les autorités locales.
Aujourd'hui est un jour historique pour Sao Paulo, le Brésil, mais aussi pour toute la science.
En temps normal, 8 à 10 années de recherche sont nécessaires pour mettre au point un vaccin. Mais des moyens hors du commun ont été déployés pour accélérer le processus, car des milliards d'euros sont en jeu.
Si vous avez une entreprise privée qui trouve et détient le brevet du vaccin, là vous êtes face à une rente assez exceptionnelle.
Le risque serait de voir le vaccin réservé aux pays les plus riches, ce que souhaite éviter l'ONU.
Les traitements et le futur vaccin contre le coronavirus doivent être disponibles pour tout le monde, partout, comme un bien public, un vaccin du peuple.
Une volonté également partagée par plusieurs États, comme la France ou l'Allemagne. Mais légalement, il n'est pas possible de contraindre une entreprise de céder sa découverte.
Si la firme ou le consortium qui découvre le médicament dépose un brevet, il ne peut pas être un bien public et encore moins un bien public mondial. Donc en fait, la question de la possibilité de ce vaccin d'être un bien public mondial, ça va dépendre de la réaction des consortiums qui vont trouver et du brevet qu'ils vont déposer et de la façon dont ils vont exploiter leur brevet. Mais il ne peut pas être décrété bien public mondial par un président, quel qu'il soit.
Alors, pour s'assurer d'obtenir le futur vaccin, les États avancent leurs pions. Les États-Unis investissent 1,6 milliard de dollars versés, par exemple, dans l'entreprise Novavax, s'assurant ainsi, en cas de réussite, la primeur des 100 millions de premières doses. L'Union européenne, quant à elle, a signé un accord avec le Britannique AstraZeneca pour 300 millions de doses, avec une production localisée en Europe. Des négociations seraient également en cours avec d'autres industriels comme Sanofi.
Quel est l'objectif de cette initiative? De dire, nous, Européens, nous nous mettons ensemble pour nous mettre en situation que qui que ce soit puisse trouver le vaccin. Européens, ce que nous souhaitons, mais Américains, Chinois ou ailleurs, nous ayons les capacités ensemble à le produire au plus vite pour notre population.
Le monde avance en ordre dispersé dans cette course au vaccin et des tensions apparaissent entre États. Jeudi dernier, les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni ont accusé la Russie d'avoir mené des cyberattaques contre plusieurs centres de recherche pour voler des informations. Moscou dément toute implication.
Alors, question téléspectateur. Est-il possible qu'on ne trouve jamais de vaccin contre le Covid-19, Martin Blachier?
Oui, tout à fait. On n'est jamais sûr du succès du développement d'un vaccin en un temps si court pour un coronavirus ou n'importe quel virus. Donc, l'échec est peut-être même ce qui est le plus probable. Donc après, il y a énormément de programmes. Donc il y a peut-être des programmes qui vont réussir. Il y a différents types de vaccins. Mais il est tout à fait possible qu'il n'y en ait aucun qui fonctionne. Bon,
Mais Anne-Claude Crémieux, on se dit que dès lors qu'on fabrique des anticorps, quand on a été touché, bah, cet anticorps, on ne peut pas le récupérer, le copier en tube à essai ?
Vous avez complètement raison. En fait, ce qui donne de l'espoir, et je ne serais pas aussi pessimiste que Martin, c'est qu'on a affaire à une maladie immunisante. C'est-à-dire qu'elle guérit spontanément, parfois de façon grave, mais elle guérit spontanément. Donc, le vaccin essaye de reproduire ce qui se passe avec la maladie naturelle. Et quand vous regardez, si vous voulez, ce qui est écrit sur la recherche, c'est là-dessus que se fondent, je dirais, les espoirs et l'optimisme. C'est que, vraisemblablement, avec toutes les voies qui sont aujourd'hui testées, et il y a énormément de voies qui sont testées de manière simultanée, bien sûr, on ne peut pas être certain, mais en tout cas, on met tout ce qu'il faut du côté du vaccin. Et je dirais que, malgré tout, imaginer qu'il faut gagner du temps pour attendre le vaccin, c'est quand même l'option majoritaire.
Est-ce qu'on peut imaginer un vaccin imparfait, un peu comme le vaccin
Absolument.
Contre la grippe,
Absolument.
Qui fait que il marche pas très bien, il faut se refaire vacciner chaque année. Est-ce que, bref, même si on trouve un vaccin, ce coronavirus va nous empoisonner pendant les décennies
non,
à venir.
Non, vous avez raison, c'est-à-dire que quelle va être l'efficacité de ce vaccin? On peut imaginer, par exemple, ce vaccin est partiellement protecteur, ça veut dire qu'il nous empêche de faire une forme grave, mais c'est déjà très bien. Mais par contre, on fait une forme peu sévère, c'est-à-dire qu'on peut porter le virus, donc ça va être un vaccin qui va avoir un bénéfice individuel, mais qui ne va pas participer à contrôler l'épidémie. Néanmoins, c'est déjà un résultat, parce que finalement, ce qu'on cherche, effectivement, c'est quand même d'éviter les formes graves.
Martin Blachier, sur les histoires de...
Oui. Je veux juste répondre. Il y a quand même des maladies, on a eu beaucoup de mal à trouver un vaccin. Par exemple, la dengue, on a mis énormément de temps à trouver un vaccin. Il y a un vaccin qui a été trouvé, et puis finalement, il n'a pas très bien marché. Le méningocoque B, on a trouvé des vaccins pour tous les autres méningocoques, mais le méningocoque B, on a mis énormément de temps à avoir un vaccin qui fonctionne. Et on a dû essayer beaucoup de mécanismes avant de trouver quelque chose qui fonctionne. Je crois que les vétérinaires ont essayé de faire beaucoup de vaccins contre le coronavirus et ils n'ont jamais réussi à avoir quelque chose qui vaccinait efficacement les cheptels. Ouais. Donc je veux dire, il y a quand même un défi. Et alors l'autre chose intéressante aussi, c'est qu'il y a différents types de vaccins. Il y a des vaccins qui pourront être produits en masse pour la totalité de la population mondiale, c'est les techniques conventionnelles. Et il y a des techniques qui sont plus nouvelles, où certes on y arrivera, mais ce sera très difficile de produire en masse. Donc je pense qu'il y a quand même des défis sur la vaccination, ouais. Et ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de programmes qu'on gagnera forcément.
Est-ce qu'on est européano-centré quand on constate que, je ne sais pas, j'ai lu que les vaccins les plus aboutis, c'est ceux de Moderna, là, qui passera en phase 3, qui est dirigé par un Français? Et c'est aussi AstraZeneca qui est également dirigé, un laboratoire européen dirigé également par un Français. Non mais la recherche
ça,
européenne, on n'est pas complètement nul là, non?
Non,
mais cocorico européen.
La recherche française est pas nulle du tout. Hein. Après, toujours
la. Vous qui allez dire ça.
Non, mais la problématique en France, souvent, c'est qu'on a des très bonnes idées, puis après, elles sont développées par d'autres personnes. Mais non, il y a des gens très doués. Il y a plein. Les nouveaux traitements de l'hépatite C, ils ont été développés par une start-up belge au début. Donc non, en France, on est très bon. Bon, il y a quand même beaucoup de vaccins qui viennent des États-Unis. Sur le vaccin de Moderna, c'est un vaccin avec une toute nouvelle technique qui a l'air intéressante, mais ça fera partie de ces vaccins. Ce sera très difficile de le développer en grande quantité, contrairement aux vaccins comme le vaccin de Sanofi, par exemple, qui est un vaccin plus typique et qui sera plus facile à développer en grande quantité.
Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, à partir de combien de nouveaux cas de Covid-19 pourra-t-on parler de seconde vague? Alors, je ne sais pas qui veut répondre.
Moi, je veux bien essayer. En fait, la seconde vague, ça ne veut rien dire. Et puis, je pense que la seconde vague, elle n'arrivera jamais parce qu'on est tellement attentif à ce qui se passe que forcément, il y a des choses qui seront faites. Sans doute même qu'on réagira par excès. En fait, ce qu'il faut dire, c'est le rebond de l'épidémie, c'est-à-dire que le virus, à quel point il est sensible au fait qu'on se relâche. Mais honnêtement, aujourd'hui, on a du mal à penser qu'il y a des pays qui vont laisser la seconde vague avancer le plus possible. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Ils n'arrivent pas à casser la vague, puisqu'en fait, ils n'ont pas réussi, ils se sont relâchés au moment où c'était déjà haut. Mais je pense que dès que ça va remonter un petit peu, il y a des mesures importantes qui sont faites. Donc je pense que l'idée qu'il y ait une deuxième vague qui remonte très haut, aujourd'hui, elle est quand même très peu probable.
Est-il prévu de contrôler le prix des masques? Aujourd'hui, il est plafonné à 95 centimes. Alors c'est une bonne chose, mais est-ce que du coup ça ne le rend pas rare dans certains lieux de vente où les gens disent bah, comme on ne peut pas faire de marge là-dessus, je n'en vends pas. Ou c'est non, Anne-Claude Crémieux.
Alors on ne peut pas parler de rareté puisqu'il se retrouve dans tous les supermarchés.
Oui, mais le soir à 23h, il n'est peut-être pas dans les petites échoppes parce qu'ils ne peuvent pas le vendre à 4 euros.
Avec le whisky.
Voilà.
Non, je ne sais pas. Non,
ça, une je peux question d'offre et de demande.
Aujourd'hui, c'est vrai que l'avantage, c'est qu'effectivement, il est vendu dans beaucoup de lieux. Et du coup, il y a une concurrence. Effectivement, vous vous rappelez qu'au départ, on le retrouvait, mais franchement, à des prix prohibitifs. Hein.
Quelles sont les régions ou départements qui risquent un reconfinement et quand Bertrand Guidet, on a beaucoup parlé de la Mayenne avec ses clusters, et pour l'instant, c'est la Bretagne. Hein, qui...
Comme je vous ai dit, on a plusieurs indicateurs qui laissent à penser que ça reprend. Ouais. Donc, effectivement, il faut suivre ces indicateurs, le nombre de passages aux urgences, le nombre d'appels au SAMU, le nombre d'hospitalisations en réanimation. Donc, effectivement, si ces indicateurs sont concordants pour montrer que ça reprend, eh bien, on va dire qu'effectivement, là, il y a une ville, une région qu'il faut...
Je compléterai juste. Oui. Hein, je pense que la plus grande probabilité de reprise, c'est dans les grandes villes où l'épidémie n'est pas du tout passée. Et moi, je pense à une ville comme Toulouse, par exemple, une ville comme Bordeaux, une ville comme Montpellier, une
Pourquoi
ville comme Marseille.
Pourquoi le fait que le virus ne soit pas passé, ça veut dire que les gens sont moins précautionneux et surtout qu'il n'y a aucune immunité?
Il y a deux raisons. Il n'y a aucune immunité. Donc, si vous avez très peu d'immunité, ça reste très, très sensible quand même. Il suffit que vous ayez un tout petit peu de relâchement et ça peut repartir. Et puis, effectivement, je pense que c'est dommage parce que c'est ces zones qui sont les plus à risque où les gens n'ont quand même pas cette expérience de la première vague. Et donc, du coup, ils seront plus prompts à se relâcher. Donc, je pense que c'est les deux raisons.
C'est vrai qu'on dit que le port du masque est bien mieux respecté dans le Grand Est, où on le sait, les gens ont payé un lourd tribut au printemps dernier au virus. Les tests proposés en pharmacie sont-ils fiables ?
Non, ce sont des tests sérologiques, c'est-à-dire que l'intérêt de ces
c'est
tests,
le sang.
Absolument, oui. C'est de voir si vous avez été en contact avec le virus et si vous avez développé des anticorps. Donc, ce ne sont pas des tests qui vous permettent de savoir si oui ou non vous êtes infecté porteur du virus. Je crois que c'est vraiment important de faire la différence parce que c'est vraiment deux réponses différentes. Ça peut être très intéressant de savoir si on a été infecté par le passé. Parce que, effectivement.
Du coup, on se dit, je suis immunisé, je suis Superman.
Parce qu'on peut se dire, effectivement, si j'ai des anticorps, je suis immunisé. La question qui se pose aujourd'hui, ce n'est pas tellement sur l'immunité immédiate, parce que là, on est tous à peu près d'accord pour dire qu'on fabrique des anticorps et que ces anticorps sont neutralisants dans l'immense majorité des cas, mais c'est un peu sur la durée de survie de ces anticorps qui, pour l'instant, est l'objet de vraies discussions.
Donc, on va être immunisé pour quelques semaines,
quelques mois. En tout cas, pour les
semaines
qui viennent, ça devrait marcher.
Serait-il possible de reconfiner uniquement les personnes à risque ? Alors, il y a une énorme polémique, ça, quand le gouvernement a laissé entendre qu'on pourrait confiner les plus de 70 ans. C'est très, très mal passé dans l'opinion. Marie Garriazo, de toute façon, on n'aime pas être stigmatisé. Une ville n'aime pas être considérée comme étant porteur du virus, et c'est la même chose pour une tranche de la population. Quoi.
Tout à fait, c'est vrai que cette crise, elle a quand même participé à une stigmatisation de toute une partie de la population. Alors, après, on l'a vu aussi, pareil, le gouvernement a modifié sa communication en fonction, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est davantage focalisé sur les personnes en réanimation qui avaient moins de 65 ans ou sur les jeunes cas pour aussi alerter sur le fait que le virus pouvait toucher un large public. Mais c'est vrai qu'en sortie de déconfinement, quand il a été question de poursuivre le confinement en EHPAD, par exemple, ça a quand même posé des questions très fortes et très sensibles dans l'opinion pour de contact avec les aînés qui étaient vraiment délicates et qui n'ont pas pu être maintenues.
L'obligation du port du masque dans les lieux publics clos peut-elle avoir un impact négatif sur l'économie désertion des magasins ? C'est vrai que quand on arrive chez un commerçant, si la première chose, c'est qu'on se fait gronder parce qu'on a mal le masque ou... Ça peut être perçu comme négatif ?
Là, je répondrais que ça aura un impact très positif sur l'économie si ça évite une reprise épidémique bien supérieure.
En creux.
Je crois que c'est vraiment ça.
Tout sauf le reconfinement, on l'a bien compris.
Ce qui a été effectivement calculé.
Les visières sont-elles aussi efficaces que les masques ? Anne-Claude Crémieux.
Vous me posez une colle parce que en pratique, si les masques ont été évalués pour ce qui est des visières, j'ai pas connaissance de.
Il y a une polémique en ce moment en Suisse où il y a beaucoup de médecins qui s'inquiètent parce qu'il y a de plus en plus de gens qui portent des visières et il y a beaucoup de médecins qui pensent que les visières sont moins efficaces. Ils auraient des cas où les visières auraient une efficacité bien moindre que les masques.
Parce que le virus ne passerait pas en dessous. Bah, oui,
parce que ce serait moins protecteur.
Effectivement, parce que l'intérêt du masque est qu'effectivement c'est autour du visage, et d'ailleurs, pour qu'il soit efficace, on vous dit qu'il faut bien le mettre autour du visage et le pincer sur les nez. Et c'est vrai que les visières, ça n'a pas le même résultat. Alors, sur des projections, évidemment, quelqu'un qui vous tousse dessus, il y a certainement une efficacité, mais encore, elle est mal évaluée. Et effectivement, le conseil qu'on peut donner aux gens, c'est que ça ne remplace pas les masques.
Ouais, je pense
que
c'est mieux là.
Bertrand Guidet, nos frontières avec l'Espagne vont-elles être refermées ? On dit qu'il y a pas mal, vous avez confirmé, de cas de coronavirus importés. Des gens qui reviennent de vacances, qui reviennent...
Alors, on est appelé à prendre en réanimation des malades rapatriés sanitaires, en fait, des Français qui ont eu le coronavirus à l'étranger et qui peuvent bénéficier de la qualité des soins français, on peut dire. Après, le problème des frontières, quand on regarde ce qui se passe entre la Norvège et la Suède, la Norvège avec une politique très restrictive, la Suède avec une politique très, on va dire, très libérale, avec en
la
gros...
La frontière est fermée, là.
Justement, avec en gros 10 fois plus de cas en Suède qu'en Norvège, alors qu'ils avaient l'habitude de pouvoir se balader très facilement d'un pays à l'autre, c'est fermé. Donc, c'est sûr que si, en Catalogne, ça repart fort, il y a une forte probabilité que la frontière soit fermée.
Maria Garriazo, le télétravail va-t-il rester la norme à la rentrée ?
Donc ça, c'est la grande question d'une partie de la population, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du télétravail, mais ça ne concerne quand même pas non plus une majorité des
5
salariés.
5 millions de Français, un quart des
travailleurs
étaient en télétravail.
Quart, mais alors, ce qui est vrai, c'est que, en tout cas, les Français s'apprêtent à continuer à vivre avec le virus, et notamment, on le voit bien dans les entreprises, le retour au travail en présentiel à temps plein n'est pas encore complètement évoqué pour la rentrée. Donc, il y a encore la continuité de mesures sanitaires qui vont maintenir le télétravail pendant un temps, et puis après, ben, il faudra voir au cas par cas quel est l'impact à plus long terme de ces nouvelles...
Et les écoles, 30 élèves par classe, c'est fini ? Non, mais parce qu'il en va quand même de l'avenir du pays, si on a une génération qui fait une demi-scolarité.
Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, les Français en fait, se mettent un peu entre parenthèses pendant les vacances, là, mais qu'ils appréhendent de façon très forte la rentrée et que les circulaires qui ont pu être diffusées au sein de l'éducation nationale sont assez peu rassurantes sur une reprise complètement
pire, hein.
À l'identique.
Ben, donc, c'est une raison de plus pour porter le masque.
Porter
tout
le masque
à fait.
Clos, c'est pour que les enfants puissent retourner à l'école en septembre.
Ouais. Voilà, ne pas avoir des générations de décrocheurs. La recherche de l'immunité collective fait-elle partie des pistes envisagées, Anne-Claude Crémieux ? C'est quand tout le monde a le virus, finalement, il ne peut plus circuler, il est bloqué.
Clairement, le pays qui a appliqué jusqu'au bout, envers et contre tout, cette recherche, qui est la Suède, ne brille pas par ses résultats sanitaires. D'autre part, en raison de l'interrogation quand même qui persiste sur la durée de l'immunité, je dirais que ça n'est pas du tout une option qui est aujourd'hui prise par les pays.
Est-il possible que le virus soit déjà en train de muter ? Ce qui serait une autre complexité, ça.
Alors, le virus est surveillé d'extrêmement près. Il est regardé, scruté, d'équipement. A priori, aucune mutation n'impacte sur sa virulence, c'est-à-dire son agressivité.
Mais il pourrait muter comme le virus de la grippe.
C'est-à-dire qu'un vaccin devrait être renouvelé chaque année. À ce stade, les virologues nous disent qu'il n'y a pas de mutation aussi importante. Néanmoins, il faut garder, je dirais, les yeux ouverts sur l'avenir.
Et bien voilà, c'est sur cette recommandation que se termine cette émission. Rediffusion ce soir, 22h40. Bonne soirée sur France 5.